Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de faire son propre popcorn. Je suis moi-même, Louis Laramé, entouré comme d'habitude de mes deux collaborateurs, Jim Boulay.
Allô!
Et Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Comment allez-vous, vous deux?
Très bien!
C'est fantastique!
Numéro 1.
Merveilleux!
Jim, qu'est-ce que tu as fait cette semaine?
Écoute, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Pas mal d'affaires, mais j'ai surtout consulté les internets et j'ai découvert des choses fort intéressantes, notamment une nouvelle voiture volante, mais là n'est pas la question. Louis, je pense qu'on veut parler de séries et de films. Donc, toi qui es un grand gamer, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, ça arrive à la
gamme. Sans gêne. Tu connais donc la série de jeux et probablement les romans de Witcher?
Oui!
Alors, tu savais qu'il y avait une série qui allait être produite par Netflix, qui est basée sur l'univers des romans et des jeux vidéo Witcher, et qui a écrit sur Twitter bizarrement qu'il avait de l'intérêt pour jouer un rôle dans la série? Mark Hamill, qu'on connaît pour être entre autres, ouais, j'allais dire surtout, mais en tout cas à l'audio, non. Donc, entre autres, Luke Skywalker dans Star Wars. Ça avait l'air un petit peu d'une blague quand il a dit ça. C'est une réponse à un fan qui avait tagué Mark Hamill sur l'annonce de la série. Alors, je doute que ce soit vrai, mais que ce soit une blague ou pas, je serais pas étonné suite à ça de voir un caméo de lui dans la série Witcher quand elle va sortir.
Là, les gens à la maison ne savent pas, mais au fur et à mesure que Jim énonçait cette nouvelle, mes yeux sont devenus de plus en plus grands. La série de Witcher est une série que je trouvais absolument extraordinaire. J'ai lu beaucoup des livres de la série parce qu'il y en a une quantité un peu faramineuse, une série polonaise à la base, mais j'ai vraiment j'ai eu des émotions en ce moment, tu peux pas savoir.
Oui, il y a des petites images qui ont été mises là, pas des démos, mais un début de quelque chose qui a été mis sur internet qui peut être intéressant à aller voir, là. C'est des maquettes encore, mais donc ça s'en vient éventuellement.
Je trouve ça bien intéressant. Mélina, toi, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine?
Oui, ben écoutez, dimanche dernier c'était les Oscars, j'ai regardé ça, puis ça me fait penser parce que tu parlais de Mark Hamill qui nous a montré qu'il y avait un sens de l'humour quand il est allé avec BB-8 présenter un prix. Il faisait des blagues, c'était vraiment drôle. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, en fait, aujourd'hui. Vendredi, il y a la troisième saison d'une série que j'aime particulièrement, qui s'appelle Love. C'est produit par Netflix. C'est une série qui a été créée par Jude Apatow, que j'ai déjà parlé parce que je l'aime vraiment beaucoup. Oui. C'est lui qui, entre autres, produit la série Girls. Paul Rust et Leslie Harfin. Et Paul Rust qui joue son propre rôle dans la série avec Gillian Jacobs. C'est une super bonne série. C'est genre comédie romantique, mais c'est un peu dramatique en même temps. C'est un peu noir des fois. On suit Mickey Dobbs qui est une jeune productrice de radio, qui a certains problèmes de consommation, qui est vraiment une drôle de personne qui finit par commencer une relation avec Gus qui est un peu son opposé. Qui fait penser un peu à Woody Allen
Le gars gêné, un peu qui est maladroit, mais qui, pour des raisons inconnues, il réussit quand même à pogner un peu.
Oui, c'est ça, vraiment, mais c'est spécial comme histoire. Puis lui, il est tuteur sur un plateau d'une série, puis...
série télé qui a pas l'air très bonne.
Non, qui a l'air vraiment mauvaise.
Qui a l'air un peu de Buffy contre les vampires, là, à la même. Vrai. Ce niveau-là.
Mais la version moins intéressante. Buffy contre les vampires avait quand même un certain cachet. C'est quand même Joss Whedon à l'époque. C'était quand même une des premières séries où on mettait en vedette une femme qui torchait autant de cul. Ne crache pas trop rapidement.
Moi, je trouvais que c'était déjà mal fait à l'époque, personnellement.
Buffy contre les vampires, ouais. Les effets spéciaux laissaient à désirer à cause du budget, mauvais. Mais au niveau du dialogue, c'était du rabat.
C'était pas mon genre, mais c'est la vie.
Mais c'est le fun de vous entendre parler de Buffy contre les vampires. Mais tout ça pour dire que par rapport à ma série que je vous parlais, la série Love, c'est ça. C'est la dernière saison. C'était trois saisons qui vient de sortir. Donc, à voir. C'est vraiment le fun.
Moi, j'ai adoré cette série-là.
Puis, je pense pas que c'est ton genre de série non
plus.
C'est
pas mon genre de série, mais j'adorais ça. Il y a des malaises bien placés dans cette série-là. Il y a un travail de fond qui est intéressant avec les personnages et tout ça.
Un travail de fond ou un travail de bas fond? Bref.
Merci, Louis.
Et toi, Louis, qu'as-tu fait?
Ben moi, je vous parlais de série télé. Moi, je vous parlais de série YouTube. Il existe, pour mes collègues bilingues anglophones, une série qui s'appelle Honest Trailer, faite par l'équipe de Screen Junkie, qui était une équipe comme ça qui produisait des bandes-annonces, mais honnête, qui reprenait les concepts du film, mais qui leur donnait une vérité plus proche de ce
la
qu'on
qualité
pouvait
du
s'attendre.
Oui.
Puis, ils viennent toujours de sortir la bande-annonce honnête pour Thor Ragnarok.
Oh.
Et on encense le directeur de Thor Ragnarok, Taika Waititi, que j'ai moi-même adoré. On demande à Disney de garder le weird. Et j'aimerais faire entendre ma voix. Disney, gardez le weird et les gens weird qui travaillent pour vous.
Walt, si tu nous écoutes.
Please keep the weird. Fait que c'était ça. Je recommande à tous la série Honest Trailer de Screen Junkie, mais particulièrement celui de Thor Ragnarok. Je me suis bien bidonné ce matin.
Ça, je pensais, je connaissais, mais je pensais pas que ça se faisait encore, qu'il y avait encore des, qu'ils faisaient encore.
Ils sont rendus à plus de 200 bandes annonces de produits. Leur première était La Menace Fantôme qui ont ressorti. C'était de toute beauté à l'époque. Mina, cette semaine, tu étais voir un film qui s'appelait « Aujourd'hui est un autre jour », ce qui me semble quand même assez évident, tu sais, au nom. Qu'est-ce que, pourquoi?
Parce que je sens que c'était pas bon.
OK, il y a une impression à ce point-là de...
Mais déjà, tu le dis avec le titre, c'est un titre un peu...
C'est auto-évident, je pense que nos amis anglophones diraient, c'est self-evident. Parce que je lisais ça, puis j'étais comme, ouais, OK, la bande-annonce m'avait pas inspiré, l'affiche du film m'inspirait des mauvaises pensées. Mais...
Moi aussi.
Mais tu t'es sacrifié pour nous.
Je me suis sacrifié.
J'admire beaucoup ton courage, en fait, Mélina, pour aller voir beaucoup de ces films que moi, je voudrais pas voir.
Mais il y en a plusieurs qui sont bons. Celle-là, elle était un peu moins.
Okay. Je te laisse le micro. Parle-nous de « Aujourd'hui est une autre patente ».
Oui, « Aujourd'hui est un autre jour ». C'est réalisé par Michael Souksy. Et juste rapidement, dans le rôle principal, on a une jeune fille qui s'appelle Angourie Rice. Donc, c'est une jeune actrice australienne. C'est pas un casting connu. C'est pas un réalisateur connu. C'est pas grand-chose de connu dans ce film-là. À part la quantité de banalité qu'on retrouve tout au long du film.
Ça se reconnaît toujours très bien.
Exactement. T'sais. Mais avant de vous en parler plus, on va aller écouter la belle bande-annonce.
Tous les jours, je me réveille dans un corps différent. Toujours quelqu'un de mon âge. Jamais très loin du dernier, jamais deux fois la même personne. Et je n'ai aucun contrôle sur ce qui m'arrive. Le jour où Amy t'a crié dessus à l'école, j'étais Amy. Et le jour où t'es allée à la plage avec Justin, j'étais Justin. C'est impossible.
Hey, c'est moi.
Tu veux dire que chaque jour de ta vie, tu te réveilles et...
Et j'essaye de vivre cette journée à la place de cette personne.
Tu dois te sentir vraiment seule.
Pas du tout, parce que je sais ce qui rend chaque personne différente et ce qui rend tout le monde pareil.
Pourquoi est-ce que tu fais ça?
Le jour où on s'est rencontrés, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais éprouvé. Je veux pas perdre ça.
Voilà la bande-annonce.
Ouais.
Le concept est quand même intéressant. Puis là, sans vendre de punch, le concept est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est basé sur un roman qui a eu du succès. Donc, on a pris ce roman-là, puis on a essayé de l'adapter à l'écran. Des fois, ça donne des bonnes choses quand on fait ça.
Oui, des fois, non.
Des fois, non. C'est ça. Puis c'est vraiment au niveau de la réalisation que j'étais comme... À chaque fois, non. Mais bon, je vais quand même vous faire un bref résumé avant de rentrer dans le restant de la patente. Donc, aujourd'hui est un autre jour raconte l'histoire de Rhiannon, une jeune fille de 16 ans qui tombe amoureuse d'une âme mystérieuse prénommée A, qui habite dans un corps différent tous les jours. Rhiannon tente de retrouver A chaque jour, ne sachant pas où il se trouve et à quoi, ou plutôt à qui, il ressemblera. Plus leur amour grandit, plus la réalité d'aimer quelqu'un qui change de corps à tous les 24 heures devient complexe et les oblige à prendre la décision la plus difficile de leur vie.
Ça sonne comme le film de fantôme le plus poche jamais inventé.
Ben c'est ça un peu, tu sais. Puis c'est ben y a pas de fantôme, y a pas d'explication non plus. On a vraiment comme ok, c'est
l'âme reste.
L'homme, le gars, il semble penser qu'il est un gars. Il se trouve à se réveiller chaque jour dans un autre corps, fait qu'il a comme jamais son propre corps. Puis il s'est toujours proche du dernier endroit où il s'est réveillé. Fait que si cette personne-là, par exemple, cette journée-là décide, cet adolescent-là, ses parents l'amènent par exemple en Floride, ben la journée d'après, il va se réveiller dans un corps de quelqu'un proche. Donc il...
Ah, mais c'est quand même intéressant. Je veux dire, je comprends ce que tu veux dire par le concept est intéressant. Mm-hmm. Il y aurait moyen de faire de quoi de bon avec ça. Mais moi, ce que j'entends, c'est comme un film d'ado poche, là.
Ben c'était un peu ça, en fait. On avait vraiment beaucoup de clichés. Puis comme tu le dis, c'est un concept pourtant intéressant. Pour ma part, j'ai pas lu le livre, mais on se retrouve face à un film assez ordinaire, quoique faut noter que la salle était pleine, vraiment. Donc, plusieurs personnes qui ont été... Des couples, des jeunes. C'est la semaine de relâche, le monde bon au cinéma.
Ben oui.
Fait que oui. Mais il y a plusieurs choses durant le film vraiment qui me donnaient envie de me cogner la tête sur un mur. Mais...
Les sièges t'en empêchaient.
Si je peux me permettre, aujourd'hui est une autre commotion cérébrale.
Mais exactement. Nomme-nous quelque chose là, qui te donnait envie de te cogner la tête sur le divan. Là.
Ben écoute, un des trucs qui me donnait le plus envie de me cogner sur la tête, c'est que la jeune fille, Rhiannon, et le gars qui changeait de corps en fait à tous les jours, se mettaient à gambader et à courir dans des moments comme... pas de sens. Genre, ils décident de skipper l'école, donc ils sortent de l'école en gambadant. Genre, puis là, on a une petite musique, puis ils gambadent, puis ils courent parce qu'ils sont heureux, puis là, ils se trouvent à, genre, passer par-dessus la caméra, mais ils se trouvent à courir tout le temps, tu comprends? Ils se rejoignent, ils se prennent la main, ils sont vraiment heureux, ils se mettent à courir pour rentrer dans l'école.
Mais il n'y a pas d'explication à ça.
Non, ils sont juste tellement, comme, heureux, ils se mettent à, genre, gambader slash courir, comme, pour aucune raison. Genre, ils marchent sur le bord de l'eau, c'est comme pour démontrer qu'ils sont vraiment contents, genre.
Est-ce que t'aimes pas les gens heureux?
Non, j'aime les gens heureux, mais...
Je pense qu'au contraire, là, l'historique des critiques de films de Mélina tend à dire qu'elle aime les gens heureux, puis qu'elle aime les films heureux. Si Mélina me dit que ce film-là, avec des gens heureux dedans, est pas bon, j'ai tendance à la croire avec 100% d'efficacité, là.
Merci, Louis, pour ce vote de confiance.
Un plaisir.
C'était à moitié un compliment.
Non, ben non, ben c'est un aveu que j'aime pas les mêmes films qu'elle, parce que moi, les gens heureux dans des films, ça me rend déprimé, mais bon. Ça, c'est un autre département.
Oui.
Ouais, mais c'est ça. Non, je sais pas pourquoi, ils gambadaient, c'est vraiment comme, il y avait plein de, c'est pour ça que je dis des genres de trucs clichés, un peu comme ça, pour illustrer des choses, genre le fait, c'est ça, ils gambadaient pour montrer qu'ils étaient heureux, ça faisait juste vraiment aucun sens, ça tuait toute la crédibilité, parce que, je veux dire, ça m'arrive de gambader quand je suis heureuse, mais pas à ça.
Pas devant la caméra.
Pas à ce point-là, tu sais. Ça nuit vraiment à la crédibilité là, du film. Là.
Mais moi, j'ai une question technique. Là. Je ne sais pas, peut-être, Louis, une hypothèse. Mais mettons, là, tu dis, à chaque jour, la personne se réveille, l'âme se réveille dans un corps différent.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qui arrive si la personne décide de ne pas dormir? Est-ce qu'elle va rester dans le même corps ou à minuit 00, elle vient de switcher de personne?
Je sais pas. C'est comme...
Ouais, parce que là, ça explore pas les time zones, cette histoire-là. Imagine le changement.
C'est vrai? T'es en avion?
C'est vrai.
Oh!
Y a parce que là, tu mettons, s'il part en voyage en Europe, soudainement, est-ce que...
Durant la trajet en avion.
Ouais, c'est ça.
Mais il est capable de repousser la personne, en fait. Il l'a fait à un moment donné dans le corps de quelqu'un, il repousse la personne, puis il garde son corps pendant comme 3 jours, genre.
Ah. Mais là, l'autre question après ça, moi, je sais que c'est supposé être un film heureux, mais moi, ça me sonne comme le pire film d'horreur vraiment cruel. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là qui perd une journée complète, qui, pendant toutes 24 heures, perd contrôle de son corps, a plus de souvenirs de rien, fait des actions qu'il va falloir que ses amis lui comptent, parce que c'est un blackout complet d'informations. Mais... ça, c'est sans compter qu'on ne sait pas, elle est où, est-ce qu'elle est confuse, perdue, est-ce qu'elle a accès à ses sens, est-ce qu'elle a la même idée de... ce qui arrive autour d'elle. Moi, j'entends ça.
C'est ça.
Et fait. J'ai plus de questions que de réponses. Là.
Oui, mais c'est aussi. Ça. Moi aussi, durant le film, j'avais plus de questions que de réponses.
C'est pas mon sens.
Non, c'est ça. Tu sais, c'est un univers. On explore un sujet, mais on donne pas de réponses. Mais pour répondre à ta question, les gens, généralement, se réveillent le lendemain et ils sont un peu comme gueule de bois, si on veut. Là. Ils ont l'impression d'avoir bu la veille. Ils se souviennent pas vraiment. Mais des fois, l'âme mystérieuse va leur laisser des souvenirs parce qu'à un moment donné, ils se réveillent dans le corps de la fille. Non, il est amoureux, donc il lui laisse des souvenirs. Il a
interverti le rôle.
Ouais, si on veut.
Ça doit être weird.
Ça sonne pas du tout comme de quoi de...
Non.
Hashtag MeToo.
Mais c'est censé être un peu dramatique, mais moi, ce film-là, honnêtement, là, il m'a pas fait vivre aucune émotion. Puis je suis vraiment capable de vivre des émotions durant des films. Je veux dire, j'ai pleuré.
T'as pleuré dans le film Pierre Lapin.
Exactement.
Oui, ça, c'est vivre des émotions.
Ça, c'est, oui. Je veux dire, quand on a des vraies émotions, je suis capable de les vivre. Mais là, j'étais juste tout le long comme avec une face un peu...
Ouais. Mais t'es resté. C'est
mais
bon
je suis resté. Ben, oui, mais y a, tu vois, il y a deux personnes derrière moi qui sont parties.
Ah oui?
Durant le film.
Ah, ça, c'est intéressant. Ça arrive pas souvent là, qu'on est témoin de gens qui s'en vont durant
ouais.
le film.
Ouais. Est-ce qu'on a regardé, mettons, le score Rotten Tomatoes? Est-ce qu'on
autour
sait
de 60 à peu près.
Ah oui, c'est pas mauvais, non. Ça. Là,
non, qui a fait les critiques, par contre? Là, mais...
Ouais, mais pourtant, tu sais, ça reste quand même une augmentation ouais. correcte.
Okay, mais il y a quand même des points positifs. Ben, il y a quand même trois points positifs.
C'est beau, la musique est du bon.
La musique est bonne.
Bon.
On a des fois des belles scènes, des beaux paysages. La photographie n'est pas écœurante non plus. Mais on a vraiment une diversité de casting parce que comme l'âme, elle change de corps à chaque jour,
ah ben oui,
on n'a pas de personnage principal pour jouer cette âme-là. On a vraiment un casting différent, puis ils ont vraiment exploré ça. Fait qu'on a des gens vraiment de toute culture, toute origine, puis des fois, ils se réveillent dans un corps de gars, des fois, ils se réveillent dans un corps de fille. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant au niveau du casting. Puis, la jeune actrice qui joue la Rihanna, notre personnage principal, elle est très bonne. Elle fait vraiment... ben, elle est bonne. Elle n'est pas très bonne, mais elle est bonne. C'est un point positif de ce film-là.
Y a-t-il quelque chose qui est très bon dans ce film-là?
Mais pas tant, non.
Le popcorn?
Ça dure combien de temps?
Autour d'une heure 45.
Ah, ça, c'est bon.
C'est pas pire, ça. C'est...
Ouais, puis la fin n'est pas, pas vargeuse non plus, comme vous dites, populace de Sherbrooke.
Bon, fais-nous sentir le poids de ton maréalocentrisme.
N'est-ce pas?
Sur ces belles paroles, Mélina, quelle note donnes-tu à ce fiasco?
J'y donne un 5, parce que...
C'est quasiment haut.
Oui, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste pas bon.
OK. Ça réussit dans rien vraiment, mais ça échoue pas non plus.
C'est ça, okay. Exactement. Tu le résumes très bien. Merci, Jim, pour,
excellent.
Pour ça.
Ben, merci beaucoup, Mélina.
Et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand.
Oui, fait que moi, j'ai pas été voir La vie est un autre jour. Moi, j'ai été voir Un justicier dans la ville, la version française de Death Wish, qui est une reprise d'un film de 1974. Cette fois-ci, qui met en vedette Bruce Willis, Vincent D'Onofrio et personne d'autre de connu.
Ah.
J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film-là. J'ai vraiment énormément d'émotions par rapport à ce film-là. J'ai vraiment... les gens qui me connaissent savent que j'ai un amour presque immodéré pour les films d'action, les films de guns, les films de... un paquet de ces choses-là. Mais là, pas aujourd'hui.
Ouh.
Mais avant de commencer vraiment à m'aligner complètement sur le top puis partir en guerre, je vais vous mettre la bande-annonce pour qu'on se mette au moins dans le mode, qu'on ait une idée dans quoi on embarque. Fait que si vous me permettez,
allez-y.
On va commencer par ça.
Bonjour, vous écoutez Souhait le matin. Faut qu'on parle de ce qui se passe à Chicago.
La vidéo est devenue virale. L'homme au capuchon a été surnommé le bourreau. Et voilà qu'il vole des voitures.
A-t-il raison de se substituer comme ça à la justice?
C'est devenu un héros.
Et comment était le tireur?
Il avait l'air d'un blanc.
J'ai ma famille. Mais lorsqu'elle a eu besoin de moi...
911, quelle est l'urgence?
Des hommes sont entrés chez moi, ils sont là. Non!
Je n'ai pas su la protéger.
Fait que ça...
J'étais sûr que t'allais adorer ce film-là, moi,
ouais, ben moi aussi, là, en fait, je suis rentré dans ce film-là en me disant « Oh mon Dieu, je vais voir un autre, tu sais, de orgie de guns et de violence avec Bruce Willis à la tête de ce projet-là. » Je veux dire, la bande-annonce, à la base, quand je l'ai vue, j'ai eu un petit peu d'excitation sur le poil, là, comme je me suis senti devenir très, très enthousiaste par rapport à ça.
Et finalement, t'as été frileux, fait que t'as aussi eu une excitation sur le poil. Là.
Ben, je suis aussi frileux, mais non, ça, c'est pas, c'était pas ça. Bref. Je suis rentré dans ce film-là en me disant que ça va être bon. Je suis rentré dans ce film-là en ayant beaucoup d'espoir sur le... Pas nécessairement sur l'histoire, mais sur le comment ça allait être fait. Et je dois admettre que je n'ai pas été déçu.
Oh.
En fait, pour être très honnête, dans le processus d'écriture de ma chronique, j'ai hésité à faire une ou deux chroniques. Une ou deux critiques. Rapidement, la justice dans la ville, c'est... L'histoire, c'est un père aimant transformé en machine à tuer quand sa femme est assassinée par un criminel. C'est ça que qu'on nous dit. Puis c'est ça, finalement. Là. C'est effectivement Bruce Willis, sa femme se fait tuer dans une tentative d'entrée à domicile qui tourne mal. Sa fille se ramasse dans un coma dont elle ne se réveille pas. Puis lui décide de prendre la justice dans ses propres mains avec une arme qui subtilise pendant qu'il travaille comme docteur. Puis tout le film est basé sur cette espèce de dichotomie-là entre le fait qu'il est docteur de jour ou est-ce qu'il sauve des vies, particulièrement dans Chicago, qui est une ville réputée pour sa violence avec les armes. Donc on le voit souvent, c'est un chirurgien d'urgence. Donc on le voit sortir des balles, on le voit comme sauver des policiers, sauver des criminels, sauver des gens tout le temps. Puis de soir, de nuit, on le voit comme se pratiquer dans une espèce de garage abandonné à tirer sur une pancarte stop. Puis après ça, sur vraiment sortir dans la ville et quasiment provoquer des situations où est-ce qu'il va se ramasser face à de la criminalité pour être capable de montrer sa propre sorte de justice. Ou est-ce qu'il finalement tue des gens, là, comme c'est straight up, lui qui, comme bang bang, puis ouais, pas bang bang,
justice
genre.
Justice personnelle, là.
Tu sais, le film est côté R pour violence. Puis effectivement, là, tu sais, on le voit double-tapper, si vous me permettez l'anglicisme. C'est-à-dire que la personne est à terre, fait qu'il va s'assurer d'en mettre une dans la tête pour finir comme la victime à chaque fois. Puis.
C'est, OK, c'est un punisher. Okay,
ouais, au niveau de la chorégraphie des armes, c'était super intéressant. Au niveau de la direction de photographie, c'était bon. La bande-annonce était bien située. J'ai vraiment aimé le fait qu'ils ont utilisé des vrais animateurs de radio. Sway XM, qui est utilisé dans la bande-annonce, c'est une vraie émission de radio populaire à Chicago qui parle des affaires de Chicago. Y a vraiment beaucoup d'aspects super intéressants à ce niveau-là. Puis si ça avait été un film que j'avais écouté dans un vacuum, que j'avais écouté dans un vide total, j'aurais probablement adoré ça. Malheureusement, tout le scénario du film n'est finalement qu'une espèce de glorification de la violence chez les Blancs. D'une espèce de « si t'es blanc pis que t'as des guns, tu peux faire ce que tu veux pis tu peux régler tout à ta manière parce que ultimement, ben t'es blanc, fait qu'on s'en fout. Fait qu'on te laisse faire ce que tu veux. Fait qu'on voit plusieurs scènes où est-ce qu'il rentre dans un gun shop, il n'y a que des Blancs barre en barre de la place, il se fait offrir par une jeune femme habillée de manière affriolante des armes de destruction massive avec un grand sourire. On le voit acheter un meuble où ce qu'il peut kicker puis l'arme semi-automatique sort tout seul du dessous du meuble.
Il l'achète. À Chicago, ça, c'est au carrefour de Chicago, je pense.
Mais ça, c'est relativement populaire aux États-Unis. Puis c'est ça, en fait, là, c'est toute cette histoire-là. Puis beaucoup des criminels qui vont descendre sont d'origine latine ou noire, alors que lui est plus blanc que blanc. Là. On s'entend, Bruce Willis, il a bien des qualités, mais pas celle-là. c'est aussi, il est mis en opposition avec un espèce de partner de policier, où est-ce que c'est un homme blanc et sa partner femme noire qui lutte contre le crime. Puis finalement, je vais divulgâcher, mais j'étais tellement fâché que j'ai failli sortir du cinéma à ce moment-là, où est-ce que on voit une scène où ce qui détermine finalement que c'est bien lui qui est, en anglais, The Grim Reaper, mais le boucher. Puis plutôt que de l'accuser, plutôt que de le mettre face à la justice, face au meurtre qu'il a commis, face au fait qu'il a usurpé la justice telle qu'on la connaît, ben les deux hommes blancs prennent une entente, se serrent la main et s'entendent pour dire qu'il ne le fera plus.
Ben voyons.
Je te le jure, c'est ça qui est l'espèce de culmination de la battante.
Ben, qu'il tue tout le monde parce que l'autre a fait ça, puis au bout du compte, il fait rien avec lui.
Yep.
Ah, c'est merveilleux.
Puis tout ça est une espèce d'idée comme de quoi que la justice telle qu'on la connaît, là, c'est-à-dire le système policier, judiciaire avec les avocats, ne fonctionne pas. L'idée que d'avoir ses propres armes, parce qu'il y a beaucoup d'annonces de gun shop au travers le truc, donc le temps de réponse d'un policier, c'est 15 minutes. Le temps de réponse d'une arme à feu, c'est 3 secondes.
OK, c'est financé par l'industrie.
Ben, c'est ça, hein?
C'est bien... Tu sais, déjà, juste ça, c'est potentiel, c'est super dramatique. C'est vraiment pas... C'est déplaisant, je regardais ça, puis j'avais mal. Je sais pas si c'est parce que notre culture canadienne n'est pas assez comme implantée là-dedans. Je sais pas si c'est parce que j'étais pas la bonne clientèle cible. Pourtant, j'étais un jeune homme blanc.
Qui aime les gars.
Ben, puis tu sais, j'aille pas ça. Puis je regardais ça, puis je me sentais mal à l'aise, puis je me posais des questions sur qu'est-ce qui se passait. Puis c'est encore plus dramatique en considérant qu'il y a à peine 3 semaines maintenant, le Parkland shooting, où est-ce qu'un étudiant en Floride a acheté une arme semi-automatique telle que dépeinte dans le film, pour rentrer dans une école et tuer plusieurs de ses compatriotes.
Mais le film est sorti après. Non?
Oui.
Mais quand
oui,
même.
Mais c'est la même arme. Oui, mais c'est que c'est une arme qui est tellement populaire et glorifiée dans le cinéma qu'on n'est comme pas surpris de l'avoir la même dans les deux cas. Fait qu'il y a vraiment toute l'idée que ce film-là, probablement que l'avoir vu sans réaliser le contexte politique, j'aurais adoré ça. Mais en sachant dans quel monde on vit en ce moment, je peux pas regarder ce film-là puis l'apprécier parce que y a vraiment trop qui se passe dedans qui me font mal. Donc, je donne un 2 sur 10 à ce film-là.
Ah, ouais. Ça va d'un avis, là.
Ouais. Ça aurait pu être bon, mais dès que tu considères le moindrement les impacts de ce film-là, tu peux pas.
Le côté éditorial, t'as vraiment déplu.
Ah, assez pour dire que je donne une donne de marde.
Plus
demande.
Que le film en tant que...
Le film en tant que tel aurait probablement eu un 7, mais l'éditorial, puis le fait... Honnêtement, je pense qu'on aurait pas pu faire une meilleure annonce pour les milices d'extrême droite du Québec. Là. Je pense que c'est ça un peu comme les Trippers et autres groupes tout croche avec des guns. Qui parce que c'est pas dit, mais la suprématie blanche est comme mentionnée par en arrière au travers le fait que la plupart des criminels ne sont pas, tu sais. C'est ça aussi, là. Fait que
on rentre dans des gros clichés, là. Ouais,
assez solidement, là. Fait que c'est un film vraiment maladroit. C'est réalisé par Eli Roth, qu'on connaissait pour avoir participé à un paquet d'autres films d'action dans le passé, qui étaient tous drôles ou intéressants, ou, tu sais, qui auraient pu avoir de quoi, mais pas là. Fait que je suis dans la ville, 2 sur 10, à ne pas voir, et surtout à ne pas donner d'argent.
C'est drôle par opposition à Black Panther que t'es allé voir.
Ouais, c'est
dernière,
ça clash avec ton film.
Oui, assez solidement, là. Comme ouais. c'était vraiment pas. Oui, puis Black Panther qui, justement, travaillait tellement fort à nous peindre une image intéressante de ce que c'était que l'Amérique puis le monde dans lequel on vit, qui, justement, était parfaitement au courant dans quel genre de monde est-ce qu'il sortait le film. Qui. Fait que. Oui, ça fait mal à quel point. Certains films peuvent prendre le zeitgeist contemporain et l'utiliser, et d'autres complètement ne pas s'en soucier puis tomber là-dessus. Je regardais justement les scores sur la tomate pourrie, puis le score des critiques était aux alentours de 20% pour Justine dans la ville, mais le score du public était autour de 80%.
Fait
que je suis pas tout seul. Ça monte vraiment.
Non, mais je suis pas tout seul à dire que le film était bon. C'est vraiment juste l'éditorial autour qui était pourri.
Oui, tout à fait.
Fait que ce serait ça pour ma chronique. Pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons vous parler de Charlotte A du Fun, qu'on fait une critique commune parce que nous sommes allés le voir les trois. Mais avant ça, Jim nous parle du Pit-Pit écarlate, du cardinal léger, du Moineau Rouge.
Oui, j'étais voir le film Le Moineau Rouge. Honnêtement, titre moins glorieux que pour la version anglaise, Red Sparrow. C'est un film américain réalisé par Francis Lawrence qu'on connaît pour plusieurs des films de la série Hunger Games. Et les fans d'Hunger Games ne seront pas trop dépaysés d'ailleurs parce que c'est Jennifer Lawrence qui a le rôle principal du Moineau Rouge. Jennifer Lawrence, Francis Lawrence, ça sonne proche, ce ne l'est pas. Mais non, aucun lien familial entre les deux. Voici la bande-annonce.
Il ne pouvait y avoir aucun témoin. On m'a donc offert un choix. Mourir ou devenir un moineau.
À partir d'aujourd'hui, vous serez des moineaux. Des armes dans la quête mondiale de pouvoir. Ici, vous apprendrez la manipulation mentale. Vous devez apprendre à surpasser toutes vos limites. Retirez vos vêtements. Quand nous en aurons fini avec vous, la personne que vous étiez n'existera plus. L'être humain n'est qu'un assemblage de différents besoins. Devenez la pièce manquante de ce casse-tête et vous obtiendrez n'importe quoi.
Donc, vous aurez conclu que Red Sparrow ou Le Moineau Rouge était un film d'espionnage?
Ben oui, mais je...
Tu te demandes c'est quoi un moineau, non, mais c'est ça?
C'est pourquoi autant de moineaux? Pourtant, je...
Écoute, pourquoi avoir traduit ça comme ça? Excellente question. On aurait dû dire sparrow, parce que franchement, il n'y a aucune utilité de traduire ce mot-là. C'est le terme employé en Russie.
Oui, mais en même temps, c'est vraiment un moineau. Tu sais, c'est pas...
Oui, mais tu sais... Hunger Games, c'est pas le jeu de la... En tout cas, bref, tout ça pour dire que Red Sparrow ou Le Moineau Rouge, c'est un film d'espionnage digne de ce qu'on connaît de la guerre froide. Et pourtant, c'est une l'histoire est contemporaine et ça met en place des éléments traditionnels dignes d'un bon film d'espionnage entre les Russes et les Américains. Des meurtres, des vols de documents, des manigances, la surveillance et des agents doubles. Jennifer Lawrence incarne Dominica, qu'on voit dès le début comme une jeune et prometteuse ballerine pour qui la carrière va tomber à plat très vite lorsqu'elle se blesse pendant une représentation d'un spectacle de ballet. Donc, son oncle, bien placé dans l'intelligence, lui propose de devenir espionne pour le gouvernement russe. Elle va fréquenter une école très spéciale où elle apprendra à devenir une sparrow ou un moineau, comme le disait la dame dans la bande-annonce, et donc à utiliser son corps et son esprit pour arriver à ses fins et à deviner les failles de ses futures cibles. Parce que le phénomène des sparrows, c'est une femme entraînée à justement utiliser ses charmes et ses habiletés pour arriver à soutirer une information ou à même si s'approcher du pouvoir.
De citer justement Jennifer Lawrence dans le film, c'est une école de putes.
Oui, on pourrait dire que c'est ça en fait. Mais c'est juste, c'est des putes, c'est des prostituées si on veut, mais qui apprennent à que leur corps fait partie de l'État, que leur corps appartient un peu à la Russie. Et donc l'utilisent dans un but... disons, d'arriver...
Pointé.
C'est pas la prostitution contre de l'argent. Là. On essaie d'utiliser son corps, comme ça a été fait de tout temps, en termes d'espionnage, pour s'approcher des gens influents ou des gens qu'on veut espionner. Et ça marche très bien. Et justement, Jennifer Lawrence, ou plutôt Dominica, va être envoyée dans une école, justement, de Sparrow. Et ensuite, elle va être envoyée à Budapest où le gros de l'histoire va se passer et où elle aura son premier gros contrat d'espionnage. On n'invente pas l'eau chaude, mais la particularité du film, c'est de faire voir l'héroïne devenir malgré elle une espionne des services russes. Et ça, c'est intéressant, avec toute la haine et l'hypocrisie qu'elle peut ressentir face à ce qui va l'avoir amenée là-bas. On reste dans la typique dualité des films américains, donc les Russes sont des méchants et les Américains sont gentils, évidemment. Heureusement que la CIA est là pour aider la petite, on se sent tout à fait en terrain connu à ce niveau-là. Mais ça manque un petit peu d'originalité d'ailleurs à ce niveau-là. Jennifer Lawrence est encore une fois très bonne dans son rôle de femme qui ne sourit jamais. On est en terrain connu encore une fois parce que c'est la Jennifer Lawrence qu'on connaît dans Hunger Games à peu de choses près de ses vêtements.
Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle avait un accent russe.
Oui, ils l'ont clairement entraînée à parler peu comme ça.
Ouais, mais très bonne actrice, moi.
Et ça, je te dirais que c'est l'autre élément qui me dérange un peu de ce film-là, c'est que de toute évidence, ça se passe en Russie, personne parle en anglais là-bas. Là. Oui, aucune raison qu'ils parlent en anglais entre eux. Il aurait pu, mais c'est sûr que Jennifer Lawrence doit pas parler russe, mais il aurait pu au moins occasionnellement faire parler des gens en russe avec des sous-titres, ça aurait été plus crédible à mon avis personnellement.
Je sais pas, mais ça, je pense que c'est une question d'opinion personnelle, parce que moi, quand c'est ça, j'haïs encore plus ça quand il y a des bouts en anglais puis après ça, il y a des bouts en russe parce que c'est comme, tu sais, il switch pas.
Il faut qu'il y ait un motif. Si une Russe parle avec un Américain, c'est normal que ça se parle en anglais.
Oui, mais à un moment donné, il faut dépasser le réalisme pour avoir du plaisir, puis je pense que là, c'était ça.
Ben peut-être, moi ça m'a un peu achalé, mais j'ai passé par-dessus, c'est quand même un bon film là. Ce que je vais dire ne fait pas totalement l'unanimité chez les critiques, mais à mon avis l'intrigue était quand même assez bien ficelée, à mon goût du moins. J'ai aimé la fin, ça s'enlignait pour quelque chose d'extrêmement prévisible, et bref, paf, j'ai été surpris. La fin, très content, et surtout qu'enfin on arrête un film après le punch et non pas sans nous montrer des scènes interminables, explicatives ou conclusives pour rassurer les âmes sensibles que l'amour est possible, etc. etc. Alors, on n'a pas perdu de temps avec ça dans ce film-là. On nous amène jusqu'au point culminant et après ça, on arrête. Et puis, c'est très, très bien. C'est l'endroit pour finir le film. Alors, le film est 16 ans et plus, mais franchement, je vois pas vraiment pourquoi. Probablement pour la nudité occasionnelle, les images suggestives et parce que... c'est
la scène de viol?
Oui. Ah non, je pense que c'est plus la scène de torture qui est quand même intense. Ouais. La scène de torture est particulièrement intense. Bon, OK, 16 ans et plus, justifié.
Mais moi, je cachais mes yeux, là, à certains moments dans le film.
Oui, mais ton...
Mais t'as
ton
pleuré enfant, dans Pierre Lapin.
Ton enfant intérieur a 12 ans, Mélina. Je t'apprécie énormément, mais c'est pas...
Au moins, il est encore en vie, le sien, Louis.
Good point.
Bref.
Good point.
Donc, c'est un film assez long, 2h20, mais sincèrement, moi, j'ai trouvé que ça passait quand même beaucoup plus vite que ça. On ne s'ennuie pas vraiment dans le film. On a le temps, on n'a pas le temps de regarder sa montre comme je l'ai fait dans le film de la semaine dernière. On alterne assez bien le suspense et l'action et on s'attache rapidement au personnage de Dominica, je donne 8 sur 10 à Red Sparrow, ou en français, le moineau rouge.
Excellent, ça me semble bon. Je dois admettre, par contre, je suis un peu surpris, puisque les critiques ont vraiment démoli une partie de ce film-là, mais surtout la controverse autour de l'usage abusif des maillots de bain révélateurs de Jennifer Lawrence ont aussi été un peu critiqués.
Mais ça ne dure pas très longtemps, là.
Non, mais c'est l'idée que c'est aussi inutile un petit peu, tu sais, c'est surtout ça.
Ben, la scène de la piscine est totalement absurde, là. Ça aurait pu être fait n'importe où, effectivement. Okay. Surtout qu'au bout du compte, elle se baigne.
Pour le fun?
Ben non, mais au bout du compte, elle est là pour montrer son corps. Donc, c'était le but pour attirer quelqu'un. Là, je ne veux pas dévoiler les punchs. Sinon, excellent. Hein, ça va être terrible. Voilà.
Donc, merci beaucoup, Jim, pour cette critique de Le Pit-Pit écarlate.
Oui.
Une histoire de Matahari contemporaine. Donc, chez Cinébranche, on a une tradition, quand il y a des films québécois qui sortent, qui ont l'air de qualité questionnable ou de look intéressant.
Ambitieux,
souvent.
Ambitieux, oui.
Mm-hmm. Oui. Excusez, je me rappelle encore que la dernière fois, j'ai mentionné que c'était un recul du cinéma de 10 ans, à quelque part.
Oui, mais c'était ambitieux, mais dans le sens inverse pour toi.
Oui, malheureusement, c'était pas... Mais cette fois-ci, c'est vraiment moins pire. On a été voir un film de Sophie Lorrain qui s'appelle mm-hmm. Charlotte a du fun, qui est l'histoire de trois jeunes adolescentes qui, suite à la peine d'amour d'une des trois, tentent de se trouver un nouvel emploi au Joie des Pots et tentent de découvrir la signification de l'amour, la sexualité, les relations et l'amitié. Pour se mettre un peu dans le bain avant de commencer la critique commune, je vais vous mettre la bande-annonce.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça va?
Ça marche pas. Je m'excuse.
Mais Samuel, c'est un gars incroyable puis sensible. C'est mon âme sœur, puis je vais toujours l'aimer.
Faut qu'on se parle.
Fuck you, Samuel Fortin!
Je l'aime!
Je me sentais super mal, j'étais comme je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non. Mmh.
Salope dans le bon sens du terme.
Dans la vie, si tu veux pas être dépendante affective, faut que tu sois libre, hein?
Tu peux pas parler de sexe dans un magasin de jouets.
Il n'a jamais, jamais connu...
Excellent.
En tout cas, moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré ce film-là, personnellement. J'ai beaucoup ri.
T'as beaucoup ri
j'ai
dans
beaucoup ri
film-là.
Dans ce film-là. Je excellent. M'attends pas à ce que ce soit ton cas, mais non, moi, j'ai bien aimé.
Écoute, Mélina, on va commencer. Là, on a déjà un peu parti le jeu. Je pense que je vais demander à Mélina de commencer cette fois-ci sa critique de Charlotte, Just Wanna Have Fun.
Mm-hmm. Hey, moi, j'ai vraiment aimé ça aussi.
Bon!
Hey, calme!
Hey, hein? Non, mais à un niveau technique, là, au niveau du scénario, j'ai vraiment aimé ça aussi. Mais à un niveau plus technique, là aussi, des prises de vue qui étaient vraiment intéressantes. Un mm-hmm. petit clin d'œil, comme on parlait, là, la caméra floue, quand on voit une... C'était beaucoup utilisé à l'époque, là, de Marilyn Monroe.
Oui,
puis,
pour un cinéaste, là, il y avait plein de petits clins d'œil intéressants au niveau cinématographique, effectivement. C'est en noir et blanc.
Vraiment
donc,
aussi.
Donc, ça fait différent, c'est rafraîchissant.
C'est rafraîchissant, effectivement. Puis l'utilisation de la chanson là, de l'opéra de Carmen. Là,
oui. Un petit peu trop, à mon avis, mais à ce niveau-là. Mais oui, ils l'ont bien utilisé. Mm-hmm. Ils ont réussi à ramener ça, malgré que la qualité avait l'air d'être prise sur YouTube.
C'était un peu l'idée derrière l'extrait, là, je veux dire.
Oui.
C'était clairement
on
le
voit sur
le
téléphone. Puis, oui, c'est, oui, absolument.
Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, en fait. C'est un film d'ado. On voit aucun adulte. C'est rafraîchissant d'un film d'ado où il n'y a pas d'adulte. J'étais un peu étonnée du public qu'il y avait dans la salle quand je suis allée voir le film parce que je pensais que ça attirait beaucoup plus d'adolescents. Et, mais c'est du cinéma québécois, donc ça l'attire de toutes sortes de...
Mais il y avait une dame en face de nous qui était un peu en avant de nous, qui était relativement âgée. Là, je ne pourrais pas dire son âge exactement, mais on dirait que je me sentais durant le film un peu... J'avais peur qu'elle soit choquée par certaines scènes qui étaient quand même relativement explicites, disons-le.
Ben, j'essaie de trouver justement dans la bande-annonce la bonne balance avec...
Ben, c'était bien pensé. Mais, le film ouvre avec une fille qui se regarde dans le miroir avec un dildo.
Oui, puis la personnage principale qui est en train de se magasiner un corset noir et rose.
c'est absolument très assumé, en fait. C'est le fun. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant, surtout au niveau de la libération de la femme. Puis, de ce que j'ai lu, Sophie Lorrain, au début, voulait appeler son film « Salope dans le bon sens du terme ». Finalement, ouais, finalement, le titre n'a dû être changé pour « Charlotte a du fun ». Mais
que je trouve quand même bien comme titre.
Aussi, absolument. Aussi. Mais je suis curieuse, toi, Louis, de ce qui...
Non, moi, je refuse de donner mon opinion avant que Jim ait donné la sienne.
Ben écoute, comme j'ai dit, moi, j'ai aimé le film. Montage très, 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 très réussi. Du début à la fin, je trouve que le montage est parfait. J'ai aimé les personnages, pas tous. Il y a des personnages que j'ai moins aimés. On faisait exprès de nous amener dans certains clichés, mais de les traiter d'une façon un peu différente. Ça, j'ai trouvé ça le fun. De donner tout le temps le point de vue des jeunes femmes. Et je pense qu'honnêtement, on est plus proche dans ce film-là d'ado d'une réalité plausible de ce que les adolescents ou jeunes adultes de cet âge-là peuvent vivre dans une situation similaire qu'à peu près tout ce qui a été fait au cinéma, du moins québécois, là, tout ce qui a été fait. Parce que je trouve que c'est très crédible. J'aime aussi, comme Elina le disait, le fait qu'il n'y a pas aucun adulte dans tout le film, que ce soit que des jeunes.
Vraiment.
Et qu'on... Il y a des références, là, mais ça, j'ai trouvé ça bien. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait rire. Oui, il n'y a pas vraiment d'histoire là-dedans. OK, l'histoire se résume en une phrase, presque. Mais c'est le fun de voir la progression des personnages. Puis c'est... On se le cachera pas, là, on est tous un peu quétaines, à part Louis. Puis c'est le fun de voir comme des gens découvrir leur sexualité puis apprendre c'est quoi les relations humaines et amoureuses. Quand c'est bien amené, du moins. Ce que j'aime le plus du film, là, ça demeure vraiment les personnages. Je trouve qu'ils sont très forts. Et c'est la plupart, je ne les connaissais pas du tout. En fait, je pense que j'en connaissais aucun là-dedans, acteur et actrice. Et il y a des belles petites découvertes. Là. Moi, j'ai bien aimé, j'ai oublié son nom, le jeune homme qui travaille. Je ne veux pas dévoiler rien, là. Selon ce que je vais dire, ça pourrait dévoiler des choses.
Un des acteurs.
Mettons le dernier de la liste, si on faisait une liste. Là.
OK.
J'ai trouvé qu'il était... Il ressemble un peu à Pierre-Luc Funk, mais c'est pas lui.
Mais 10 ans de moins. Ben non, 3 ans en fait.
Ouais, puis prometteur, je serais pas étonné de le revoir dans autre chose. Peut-être qu'il est connu, là, je sais pas, à Vrac ou ces affaires-là, moi je le connaissais pas.
Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu des actrices, spécifiquement de Charlotte puis de ses deux meilleures amies?
La dynamique, moi j'ai adoré.
Puis moi, je trouvais ça très vrai aussi, là. Je sais pas son nom, mais la fille...
Ouais, là, la fille, on pourrait l'appeler la fille vierge. On pourrait l'appeler comme ça.
Aube.
Aube, oui, c'est ça. Pour avoir, dans mon histoire de vie, été près d'une jeune femme qui vivait une situation similaire à elle, j'ai, ma foi, je me suis laissé prendre à revivre exactement la personnalité, précisément, la même gêne, le même malaise. C'était franchement réussi, une actrice qui est assez profil bas, disons-le, tout au long, mais qui finalement, à un moment donné, a son heure de gloire et qui finit mal, mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était impeccable, c'était digne de ce qu'une femme dans sa situation, une jeune femme dans sa situation vivrait et de quelle façon elle se comporterait. Puis en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un film très réussi, même que j'ai hâte d'entendre ta critique, oui. Je ne me peux plus.
J'ai voulu garder le suspense, justement, parce que tout le monde s'attendait à ce que... Mais en fait, ce que nos auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est que c'est moi qui ai recommandé à ce qu'on aille voir Charlotte et du fun comme un film. Parce que j'avais vu la bande-annonce avant mes deux collègues en me disant que Sophie Lorrain, absolument, j'aime pas ce qu'elle fait parce que... Pas nécessairement parce que c'est pas bon, mais parce que je suis définitivement pas la clientèle cible. Et... effectivement, encore une fois, je suis pas la clientèle cible. Je veux dire,
ben non, mais c'est sûr,
l'exploration de la sexualité, des relations et de ce que c'est que d'être une bonne salope pour une jeune adolescente. En tant qu'homme de 27 ans, blanc, un peu gras, c'est un peu limité comme à quel point ça me touche. Mais malgré tout ça, j'ai adoré ce film-là. J'étais au cinéma et je cherchais avec un grand sourire dans le visage parce que c'est un message d'espoir que j'ai trouvé super intéressant. Je pense que toute la montée, l'arc du film avec les montées et les descentes, c'est super intéressant. On explore ce que c'est que les doubles standards qui existent dans la société en ce moment. Toute l'idée, dans le fond, entre la bonne et la mauvaise salope explorée par les
hommes
personnages.
Homme versus femme. Homme versus femme. Quel point c'est accepté d'un côté et pas de l'autre.
La fiche parfaite qui est un point central de toute cette histoire-là. L'idée, justement, temps qu'on puisse donner une autonomie à des jeunes femmes de 15, 16, 17 ans, c'est jamais clair.
Mm-hmm.
On peut voir les conséquences aussi lorsque c'est mal géré, mais qui peuvent bien tourner avec la femme qui est enceinte, l'adolescente qui est enceinte
mm-hmm.
dans le magasin auquel il travaille. Parce que c'est ça un peu l'intrigue, c'est qu'ils se ramassent tous à travailler au Jouet Dépôt. Il y a 6 femmes, 6 jeunes hommes qui travaillent là.
Et
c'est ça, c'est tous des gens beaux et qui flirtent et qui sont célibataires. Mais le noir et blanc était une belle addition, je pense, mm-hmm. à cette idée-là. Ça nous évitait de trop s'accrocher
surtout
aux détails.
Un magasin de jouets, ça devait être très coloré comme environnement.
Oui, ça
devait être
vraiment juste. C'est ça.
Ouais.
Ouais.
On peut mettre l'emphase plus sur les personnages, plus sur les textures. Moi, j'ai adoré les costumes. Je sais que ça a l'air tweet pour un film en noir et blanc, mais au contraire, je pense qu'il y avait un travail excellent de créer un sentiment de présence au travers de ça. Je pense que la morale est intéressante. Je pense qu'il n'y a aucun moment où ce que j'ai fait, ce film est trop mièvre et ne me tente pas. Je n'ai jamais vu comme pas encore le cliché d'amour, parce que oui, il y a eu des clichés, mais comme tu dis,
oui,
ça a toujours été exploré de manière intéressante.
Ça
a toujours été quelque chose qui ne m'a pas dérangé. Je pense que, mais dès l'intro, j'ai été hooked on. Là, la scène dans la bande-annonce que l'on entend, c'est dans le fond, suite à l'achat du dit corset,
ouais.
Elle se ramasse à avoir des relations sexuelles avec son copain, qui lui révèle être gay finalement, tu sais, puis j'étais comme, c'est donc bien charmant. Puis là, elle dit, tu sais, je vais toujours l'aimer, c'est une personne extraordinaire. On la voit virer saoul et faire fuck you, tu sais, j'étais juste comme, c'est parfait. Je m'y suis beaucoup identifié dans l'autre ami, pas Hope, mais
la
qui se déguise en Che Guevara pour l'Halloween. J'ai eu un sentiment d'appartenance très fort à ce moment-là.
Oui.
Fait que non, je ce film-là m'a marqué. Et je pense que dans les films québécois qu'on a vus depuis le début de l'émission,
c'est la première fois que les trois,
on est d'accord
positivement sur un film. On a déjà été d'accord négativement sur Flatliners, notamment.
Sur Flatliners ainsi que sur Trip à 3.
Et sur Trip à 3,
c'est vrai.
Mais c'est la première fois qu'on est d'accord positivement les trois sur un film.
On a réussi à trouver le film qui nous plaisait aux trois.
Merci.
Fait que la semaine prochaine, on va en trouver un qu'on va tout tailler. Je pense que
probablement. Mais note, c'est pas indiscret.
Moi, je donne un solide 8.5 sur 10 à ce film-là. Je le recommande vraiment beaucoup à tous les gens que je connais. Je pense que c'est une bonne idée.
Je suis d'accord.
C'est le fun. On a eu du fun à aller voir Charlotte a du fun, Louis.
Oui, définitivement.
C'était
là, j'avais un smile d'en face.
Oui.
J'ai voulu aller écouter l'opéra. Tu sais, j'étais correct.
Ouais.
C'est ça, c'est ça.
J'avais envie de m'acheter un corset. Excusez.
Non, mais ça, moi, je trouve que il y avait plusieurs forces et à différents niveaux. C'est rare qu'on voit ça dans un film. Mais pour les gens qui sont habitués à voir plus de cinéma, il y avait des beaux clins d'œil. Pour le monde qui regarde plus la technique, il y avait des beaux clins d'œil. Il y avait de la belle photographie, des beaux plans dans des miroirs, des choses comme ça, super intéressantes. Pour rester dans le thème, je donnerais un 69 à ce film-là. Non, pour vrai, j'y vais avec un 9.
Et moi, j'y vais avec un 8.5 aussi, comme Louis.
Je pense que ça continue la tradition des films québécois qui prennent des concepts déjà connus, mais qui en font une variante intéressante.
Mm-hmm.
Ouais.
Définitivement.
Ouais. Mais tu vois, ce film-là a vraiment réussi dans les zones où les autres films québécois qu'on a vus récemment avaient échoué, selon moi.
Mm-hmm.
De justement prendre quelque chose et de faire de quoi de bon, qui plaît, qui est drôle, qui...
Tu as mis des conditions pour exclure le problème d'infiltration.
Oui, ben c'est ça. Quand j'ai dit qu'il est drôle.
Ouais, c'est ça. Oh, oui, ben, définitivement.
Ah, ouais.
C'est ça.
Mais là, dirait qu'il est bon, mais en tout cas.
Non, c'est ça. Ben, moi, en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là. Bref.
Mais puis on y croyait aussi, là. Moi, je suis sortie du film, puis on est allé voir ça, je sais plus, un après-midi, puis je me disais, je m'imagine, bon, ben c'est l'hiver, mais si on était l'été, je m'imagine facilement plusieurs jeunes adolescents au Québec en train
de fumer puis de boire.
C'est ça. Je suis pas sûre qu'en tant que parent d'un adolescent, je serais à l'aise de voir ce film-là,
par
exemple.
Je me disais aussi. Je me disais aussi. Mais savez-vous quoi? J'ai l'impression que peut-être que c'est une bonne idée que les parents aient voir ça. Parce que ça va en donner plus... va donner plus d'informations sur ce que doivent vivre leurs adolescents que à peu près tout ce qui se fait en termes de littérature.
Ou les décourager d'acheter des coussins écrits « Love » dessus. Moi, ça, je me suis rappelé... Fait que...
Et le générique de fin est particulièrement succulent.
Oui, il y a eu des bons moments là-dedans.
Alors voilà.
Donc, merci beaucoup à vous deux et à la prochaine fois.
Mmh.
Donc, pour les sorties cette semaine, on a quand même quelques trucs intéressants et quelques trucs qui me semblent,
moins intéressants.
Ouais, c'est ça. On va commencer justement par, Ailleurs, qui est un drame québécois.
Ça se passe ici, hein?
Hein? Mais pas à Sherbrooke, mais ça se passe ailleurs. Ça se passe... C'est l'histoire désarmante de TV, depuis le soir où il accepte de fuguer de sa banlieue aisée de Québec pour sauver son meilleur ami, Samu. La fugue des adolescents de 15 ans se change vite en une fuite éperdue contre la police et les adultes. La rencontre d'un groupe de jeunes orphelins vivant dans une grotte au cœur de la ville mettra leur amitié à dure épreuve. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, la découverte de l'amour, de la liberté et l'expérience de la résilience ne se feront pas sans heurte. Ça, c'est ça. Quand ça va être au cinéma, je vais être ailleurs. Peut-être.
Ben, tu vas être dans une autre salle.
Oui, probablement.
C'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça.
Oui, il y a aussi avec Amour Simon, la version française de Love Simon, qui était quand même direct comme titre. C'est un Simon Spear, un adolescent qui cache son homosexualité, voit son secret sur le point d'être révélé au grand jour lorsqu'un de ses mères tombe entre de mauvaises mains. C'est dirigé par Greg Berlanti, le même dude qui a fait The Fault in Our Star, qui était quand même bon, La Faute dans nos étoiles. Ça a vraiment l'air d'un film, c'est un film d'ado où est-ce que, dans le fond, Simon est gay, puis il l'a pas dit à personne dans son école secondaire, puis là, il y a quelqu'un qui fait anonymement « Hey, je suis gay à cette école secondaire-là », puis il lui répond. Puis, honnêtement, ça a l'air d'un film qui aurait été excellent il y a 10 ans. Mm-hmm. Mais, okay. on verra.
On a déjà vu ça, là, c'est ce que tu veux dire? C'est
un peu, c'est ça. Un film qui m'a surprenamment beaucoup intéressé, que je vais probablement aller voir, c'est « Téhéran tabou ». Qui sort en français, qui sort au Québec seulement en version originale perse avec sous-titres en français. C'est une coproduction iranienne, autrichienne, allemande. C'est un film d'animation. Téhéran, une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s'émanciper en brisant les tabous. L'animation a l'air excellente. Mm-hmm. Les critiques ont déjà commencé à sortir. Ça a passé à Cannes dans les films d'animation, section du jury. J'ai beaucoup d'espoir pour Téhéran tabou. Ça me semble bon. Le film que je vais probablement finir par aller voir, parce que je suis typé, c'est Tomb Raider. La version française de Tomb Raider. Qui
n'a plus Angelina Jolie cette fois.
Non, c'est Alicia Vikander qu'on avait connue dans Ex Machina, qui va jouer le rôle principal.
C'est pas la même chose.
Elle refuse de prendre les rênes de l'Empire mondial de son père. 7 ans après sa mort, Lara décide finalement de résoudre le casse-tête entourant son décès. Elle laisse tout derrière pour partir à la recherche d'une tombe légendaire sur une île mythique qui se situe probablement au large des côtes du Japon.
Ça doit être probablement le dernier jeu ou l'avant-dernier. Là, qui
J'ai aucune idée c'est quel jeu, mais je serais intéressé... En partant, c'est quand même... Tu sais, c'est le chef Ender, la bande-annonce n'était pas haïssable. On verra bien ce qui se passe. Mais le vrai film que je veux aller voir, j'espère que la maison de cinéma m'entend quand je fais un appel, parce que c'est pas... C'est une coproduction franco-belge, Grande-Bretagne. 1h46, c'est une comédie intelligente.
Toi, tu veux aller voir ça?
C'est La mort de Staline.
Ah, oh, oui!
La version originale, en anglais avec sous-titre en français, de The Death of Stalin. Dans les jours qui suivent son attaque cérébrale, les ministres composant la garde rapprochée de Staline se livrent à un combat acharné pour prendre le contrôle. Certains souhaitent un changement positif en Union soviétique, d'autres nourrissent des ambitions plus funestes. Mais tous sont dans la même urgence, lutter à tout prix pour rester simplement en vie. Adrian McLaughlin, Simon Russell Bale, Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Olga Kurylenko... Honnêtement, je recommande à tous nos auditeurs et auditrices d'aller écouter la calvince de bande-annonce de ce film-là. Ça m'a fait pleurer de rire et ce n'est qu'une bande-annonce d'une minute trente. Mm-hmm. Il y a des beaux moments. Je suis un fan fini de Steve Buscemi depuis des années. Là-dedans, il a l'air excellent, mais tous les acteurs qui sont autour de lui sont aussi délicieux. Puis, je veux dire, j'ai hâte... sans bon sens, parce que ça a vraiment l'air.
Non, mais moi, j'ai
mourir
l'espoir
de
que ce soit à la maison du cinéma.
Encore une fois, nos auditeurs auditrices ne le voient pas, mais j'ai les doigts et les jambes croisées pour m'assurer que ça arrive le plus tôt possible.
Bon.
Fait que ce serait ça pour notre émission cette semaine, où on a eu le plaisir de vous discuter de plusieurs sujets fort intéressants. Si vous avez des recommandations, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire Facebook en tout temps. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, suivre nos podcasts sur... iTunes, Google Play, RZO, ça va nous faire plaisir d'entendre vos suggestions. Encore une fois, je suis accompagné de Jim et Mélina et on vous souhaite une bonne semaine.
Bonne semaine!
Bonne semaine!